semaine d'actualité. Corinne Manjou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine qui passe en revue les événements des 7 derniers jours. La première partie de l'émission sera consacrée à l'international. Dans la seconde partie, nous reviendrons essentiellement sur l'actualité en Afrique. En France, c'est la calmie avec la pause gouvernementale. Avec nous cette semaine, pour commenter l'actualité, Tiambel Gimbayara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, un organe d'information générale qui paraît à la fois à Paris et à Bamako, mais avec une périodicité différente.
Oui, j'ai mensuel en France pour la diaspora et un hebdo à Bamako.
Et pourquoi cette...
Pourquoi ? Parce que l'info qui concerne la diaspora, son centre d'intérêt n'est pas aussi bien fourni qu'à Bamako. Et à Bamako, autant l'institutionnel que la diaspora, la forte diaspora, a besoin vice-versa des infos. Il y a certaines communes aussi qui sont en alliance avec des communes maliennes qui ont besoin aussi de voir un peu, de suivre leur réalisation partir. Il y a un monde associatif également qui est assez fourni et dynamique, qui monte en activité tant au Mali en France.
Nous reviendrons sur cette revue tout au long de l'émission. Commençons tout de suite notre tour d'horizon Tiambel par Gaza, où la trêve entrée en vigueur mardi entre Israël et le Hamas a bien tenu pendant 72 heures. Cela faisait un mois que Gaza n'avait pas connu un tel calme. Les habitants sont sortis à nouveau et certains sont retournés dans leur maison pour découvrir l'ampleur des dégâts. Reportage mercredi de notre correspondante Muriel Paradon à Beit Hanoun, au nord de Gaza.
De la maison de Kamal, il ne reste presque plus rien. Un bout de mur avec une photo, une petite piscine pour enfants, ensevelie sous les gravats. Kamal revient chez lui 15 jours après avoir fui les bombardements à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza.
Je découvre que ma maison est totalement détruite. J'avais un jardin, ma mère avait des animaux, ils sont tous morts. Mes voisins autour ont eux aussi leur maison détruite. C'est comme si un tsunami était passé.
La ville de Beit Hanoun, tout près de la frontière israélienne, a été dévastée par les bombardements. Certains habitants récupèrent quelques biens dans les immeubles éventrés, mais pour Kamal, il n'y a rien à prendre. Il laisse sa maison et une partie de sa vie derrière lui.
J'ai mis 23 ans à construire ma maison. Je travaillais, je construisais. 23 ans. Et en une minute, plus rien. C'est dur. Et maintenant se pose la question d'où on va aller. C'est bien beau la trêve à Gaza, les gens sortent, mais où vont-ils aller? Moi j'ai 5 enfants.
Pour l'instant, la famille de Kamal loge dans une école de l'ONU. Une solution provisoire, il lui faudra bientôt trouver un logement, un sort partagé par des dizaines de milliers d'autres Gazaouis qui ont perdu leur maison dans la guerre.
Après presque un mois de conflit, le bilan de l'offensive israélienne à Gaza est extrêmement élevé. Daniel Vallot.
En 29 jours de conflits et de bombardements, l'opération israélienne aura fait côté palestinien plus de 1850 tués et près de 10 000 blessés. Selon l'ONU, les deux tiers des victimes sont des civils, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. Mais ce chiffre est contesté par les autorités israéliennes qui affirment avoir tué entre 700 et 900 combattants palestiniens. Israël ne reconnaît donc qu'un tiers de victimes civiles. Côté israélien, les combats auront provoqué la mort de 64 soldats. C'est le bilan le plus lourd pour l'armée israélienne depuis la guerre de 2006 contre le Hezbollah. Israël qui déplore par ailleurs la mort de 3 civils tués dans les tirs de roquettes palestiniens. Voilà pour le bilan humain. En ce qui concerne le bilan militaire de l'opération, Israël affirme avoir détruit 32 tunnels et avoir anéanti une bonne partie des infrastructures du Hamas. Les autorités israéliennes reconnaissent cependant que le mouvement palestinien a conservé une partie de son arsenal. Il faut évoquer enfin les destructions matérielles provoquées par l'opération israélienne. Selon l'ONU, plus de 10 000 logements auraient été détruits et la situation humanitaire reste critique pour l'ensemble de la population de la bande de Gaza.
Les hostilités ont repris vendredi matin avec des tirs de roquettes palestiniennes, suivis d'une riposte de frappes israéliennes, entraînant de fait l'échec des négociations au Caire pour prolonger le cessez-le-feu. Dossier à suivre dans nos différents journaux. Alors tiens, la situation à Gaza, on n'en sortira jamais?
C'est une situation qui nous interpelle par l'ampleur des dégâts, des victimes et des dommages, et aussi le déséquilibre des deux forces, ces deux camps d'extrémistes qui entraînent tout le monde et qui entretiennent une terreur, qui entretiennent autant de pertes en vies humaines, ce qui est inadmissible. On a surtout remarqué cette fois-ci l'entrée en vigueur du seuil. Il faut un seuil désormais pour que l'Organisation des Nations Unies s'intéresse à cette question. C'est que cette guerre est atypique, cette situation est exceptionnelle. Depuis 70 ans, on continue à tuer, à faire des orphelins de guerre, on continue par la violence. On n'a jamais compris que la solution de ce conflit israélo-palestinien qui a des élans et des tenants un peu ailleurs partout dans le monde, si ce n'était que les uns soutenaient Israël pour sa sécurité coûte que coûte, vaille que vaille, et les autres aussi ont une émotion assez déplacée envers la Palestine pour qu'il y ait un État. Oui, deux États doivent cohabiter dans cette zone du monde, deux États doivent vivre en paix, mais pour cela, il faut se mettre autour d'une table et discuter.
Est-ce que vous croyez que les négociations ont une chance d'aboutir? Parce que là, il y avait des négociations au Caire qui viennent de s'arrêter.
Malheureusement, on voit que le cessez-le-feu a été rompu d'ailleurs par la reprise des tirs du Hamas, qui est dans cette position de violence malgré le déséquilibre, malgré le manque de moyens, et soutenu par l'Iran, par toutes ces puissances qui versent un peu et permettent au Hamas de tenir face à cette situation, et que Israël riposte et riposte en faisant des victimes civiles, malheureusement, et c'est dommage. On ne peut pas continuer avec la violence dans cette zone, on ne peut pas continuer à commettre de telles exactions et que la communauté internationale reste sans mot dire. Ce n'est pas admissible.
Mais comment expliquez-vous le silence ou l'absence de réaction des principaux pays arabes modérés?
Oui, on comprend qu'aujourd'hui, le monde arabe, en tout cas, sort d'un printemps. Pas mal de pays sont concernés par des crises internes et que le monde arabe n'est plus ce globe compact qui a cette fibre patriotique palestinienne qui a tout bout de champ et tout le temps vibrant et présente. Ce n'est plus ça, le monde arabe. Ce n'est plus un globe compact. C'est des intérêts aussi. C'est un monde qui commence à parler de notre langage, à donner une sympathie envers Israël. Ce n'est pas que la Mauritanie seulement qui a des accords, il y a aussi d'autres pays qui l'ont. Hein. Et même dans ce fief du monde arabe aujourd'hui, les voix sont discordantes.
Est-ce que c'est le fait que ce soit le Hamas qui soit face à Israël qui fait que même la Ligue arabe aujourd'hui semble timide par rapport à cette situation?
Oui, c'est vrai que dans cette solution, si Mahmoud Abbas et son Fatah étaient mis en avant et que c'était la discussion avait un partenaire reconnu par la communauté internationale, par la Ligue arabe, par les Nations unies en quelque sorte, on ne serait pas dans le même cas de figure. Ça, c'est un cas extrême, un cas inique qui remet en selle une association interdite, bannie par les États-Unis, par la communauté internationale, mais qui existe et qui reste là, qui tient une portion du territoire palestinien, qui se fait inviter à la table des grands, qui discute à égal. Donc cela complique davantage la situation et ne facilite pas les prises de position, la solidarité du monde arabe et de la communauté internationale.
Et que pourrait faire la communauté internationale, à votre avis, pour amener à la raison aussi bien les Israéliens que le Hamas?
Il faut, autour d'une table de négociation, un cessez-le-feu qui va être respecté de toutes les parties qu'on ne peut pas rompre unilatéralement. Il faut un dialogue approfondi avec ce partenaire privilégié qui est le Fatah et Mahmoud Abbas.
Alors, quand on dit communauté internationale, on entend les Nations Unies.
On entend les Nations Unies, on entend aussi dans ce cadre palestinien les États du Quartet, ces grandes puissances, ces quatre grandes puissances qui se sont engagées jusque-là.
La Ligue arabe aussi.
La Ligue arabe, évidemment aussi. Et bien sûr que tout ce groupe-là doit taper du poing sur la table avec l'opinion internationale pour dire que trop c'est trop.
Sept jours dans le monde.
Les Peshmerga du Kurdistan autonome ont subi cette semaine des revers cuisants face aux djihadistes de l'État islamique. Du coup, les Kurdes d'Irak et ceux de Syrie se sont unis pour contrer l'avancée des islamistes. Une alliance surprenante, tant les désaccords sont profonds entre les Peshmerga irakiens et les Kurdes de Syrie. Tout comme les relations historiquement difficiles entre le gouvernement du Kurdistan autonome et celui du premier ministre Nouri al-Maliki à Bagdad n'ont pas empêché ce dernier de décider d'une aide militaire aérienne aux Peshmerga. Les djihadistes tentent aussi de s'infiltrer au Liban, à la frontière avec la Syrie. Le Liban réclame des armes à la France pour faire face à cette offensive. En décembre dernier, l'Arabie Saoudite s'était engagée à débloquer 3 milliards de dollars en faveur de l'armée libanaise pour acheter des armes de fabrication française. Mais depuis, les discussions se sont enlisées, ce qui a déclenché l'exaspération mardi du chef de l'armée libanaise, Romain Le Maresquet.
Nous avons besoin, dans la bataille actuelle, d'équipements, de matériel et de technologie. Jean Karouadji, le chef de l'armée libanaise, a rompu son mutisme habituel ce mardi, évoquant son mécontentement devant le retard pris par la France dans ses livraisons d'armes cruciales pour contrer les djihadistes. Il faut dire que l'armée libanaise, malgré son faible équipement, tente depuis maintenant des années d'éviter une contagion du conflit syrien sur son territoire. D'ailleurs, l'armée a intensifié ces dernières heures ses bombardements sur les collines environnant Darsal, à la frontière avec la Syrie, tenue depuis samedi dernier par des djihadistes. La France n'a pas tardé à réagir. Selon le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Paris est prêt à répondre rapidement aux besoins du Liban. Si les deux parties souhaitent finaliser ces livraisons, alors où se situe donc le problème? Il semblerait, selon le chef de l'armée libanaise, que les discussions se soient enlisées sur l'établissement de la liste de matériel. De quel matériel parle-t-on? Pour l'instant, aucune piste n'a été donnée, mais selon le Quai d'Orsay, la France est en contact étroit avec ses partenaires pour répondre rapidement aux besoins du Liban. De la rapidité, c'est justement ce que réclame le chef de l'armée libanaise, pour qui les combats que mènent actuellement ces hommes ne sont qu'un épisode de confrontation avec le terrorisme.
Direction le Cambodge avec ce jugement qui fera date. Deux des plus hauts dignitaires Khmer Rouge, encore vivants, ont été condamnés jeudi par le tribunal de Phnom Penh à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Jusqu'à présent, aucun responsable de ce régime de terreur qui a fait quelque 2 millions de morts au Cambodge entre 1975 et 1979 n'avait été jugé et condamné. RFI Phnom Penh, Stéphanie Gier.
À la sortie du tribunal, c'est le soulagement. Les deux anciens dirigeants Khmer Rouge termineront leur jour derrière les barreaux, comme le souhaitaient les Cambodgiens. Derrière la satisfaction affichée, les réactions divergent. Ce fonctionnaire de la capitale dit repartir soulagé.
Ils ne sont pas relâchés, c'est donc un bon jugement. Il n'est pas nécessaire de continuer la procédure, on ne peut pas aller plus loin.
Un avis que ne partage pas ce vieil homme venu de sa province de Kampot.
Je suis heureux, c'est bien, mais pour moi ce n'est pas encore fini. J'attends que le tribunal poursuive son travail. On ne veut plus de communistes. Ils ont tué tout le monde.
L'histoire se terminera quand les Khmer Rouges seront tous morts, chuchote sa voisine, pour qui la prison à vie n'est qu'une étape avant qu'ils n'affrontent leur karma. D'autres, comme cet agriculteur des environs, se montrent plus durs envers la juridiction.
Il y a encore des responsables Khmer Rouges qui sont au gouvernement. Pour moi, justice ne sera pas rendue tant qu'ils ne seront pas arrêtés. Du point de vue international, ce verdict est considéré satisfaisant. Mais pour moi, en tant que Cambodgien et pour tous ceux qui ont souffert, tout cela reste une farce. Il faut qu'il y ait d'autres coupables.
Loin du tribunal, nombre de Cambodgiens n'auront pas suivi l'audience, à la radio ou à la télévision, souligne le jeune homme. Ils se sont, selon lui, désintéressés d'une procédure trop lente et trop symbolique.
Près de 600 morts et au moins 2000 blessés. C'est le bilan du séisme qui a frappé dimanche la région du Yunnan au sud-ouest de la Chine. Une région montagneuse qui avait déjà tremblé il y a 2 ans. C'est le séisme le plus meurtrier dans la région depuis 14 ans.
Une semaine d'actualité.
En Ukraine, l'armée poursuit son offensive à l'est contre les séparatistes pro-russes qui occupent toujours les deux grandes villes de la région, Lugansk et Donetsk. La situation reste très tendue, particulièrement à Donetsk, où les forces de Kiev semblent déterminées à mater l'insurrection. Les combats se sont intensifiés mardi, faisant au moins 2 victimes civiles, selon les autorités municipales. Anastasia Becchio.
Les bombardements ont duré plusieurs heures dans le quartier Petrovski, situé à la périphérie sud-ouest de Donetsk. Plusieurs bâtiments ont été endommagés. Les communications sont délicates, les tirs ont détruit plusieurs transformateurs électriques, il n'y a plus de courant. Des témoins racontent toutefois que les gens se terrent dans les caves. Une épaisse fumée noire a été signalée au-dessus d'un marché de ce quartier. Des explosions également dans la localité voisine de Marinka. Dans les autres quartiers périphériques de Donetsk, la situation n'est pas beaucoup plus calme. Des explosions ont retenti de façon régulière tout au long de la journée, en particulier dans le secteur de l'aéroport, plus au nord de la ville. Les forces ukrainiennes poursuivent leur progression pour tenter de prendre la capitale du Donbass en étau. Depuis plusieurs semaines, la population se prépare à un assaut. À Kiev, un porte-parole militaire confirme que les forces ukrainiennes se sont rapprochées des quartiers périphériques de Donetsk, mais refusent de parler d'assaut. Toutefois, l'état-major ukrainien a appelé les civils à fuir les zones rebelles et en particulier Donetsk. Une grande partie de la population a déjà quitté la ville.
Un quasi-état de siège, Donetsk a subi mercredi sa première frappe aérienne sans faire de victimes. Évolution à suivre dans nos différents journaux. Alors Tiambai, je me tourne vers vous. Cette actualité, notamment au Kurdistan, l'avancée des islamistes, vous en pensez quoi ?
C'est inquiétant d'autant plus qu'on a connu ça en Afrique quelques moments. Et même si les situations, la zone n'est pas la même, nous avons en tout cas une situation explosive où ces islamistes avancent vers d'autres populations qui ont contracté d'autres religions qui ne sont pas la leur. Et donc là, on peut présager du degré de violence déjà, les prémices données par les premiers affrontements, les combats. Jusque-là, les zones qui ont été occupées avec une telle violence laissent présager que la communauté internationale tarde vraiment à s'interposer, à trouver une solution pour empêcher cela. Parce qu'il ne s'agit plus de laisser et de venir réparer. Il s'agit d'être assez prévoyant et de faire en sorte que cela ne se passe pas du tout.
La situation en Syrie prouve bien que la communauté internationale est impuissante ces derniers temps.
La situation en Syrie tout de même est une répercussion de cette guerre civile hein, qui s'éternise en Syrie. Malheureusement, elle prouve à suffisance l'incapacité de la communauté internationale qui a choisi malheureusement son camp au lieu d'investir la confiance des deux parties et de discuter. Ce qui a déséquilibré les pourparlers au niveau de la Syrie parce que le régime de Bachar se voyait déjà remplacé avant la fin ou avant qu'il puisse être vaincu sur le terrain militairement. Et donc, ça fait que cette confiance qui n'est pas là rompue, la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies, plus précisément, ne peut plus être un interlocuteur fiable pour cet État-là qui s'est vu relégué au banc des accusés. Alors, la répercussion au Liban, la répercussion au Kurdistan, cet État islamique qu'on veut fonder en Irak, c'est assez pour eux, cette situation est catastrophique. Il faut soigner à la racine afin d'éviter une répercussion dangereuse, une gangrène qui peut contaminer toute la zone.
Est-ce que la difficulté ne tient-elle pas aussi au fait qu'il s'agit là de guerre de religion, entre guillemets, parce que les islamistes avancent et c'est surtout les chrétiens qui sont pénalisés maintenant, même si la communauté internationale, comme vous dites, et peut-être le Vatican aussi, ne dit rien.
Ça, c'est une donne assez nouvelle, une donne particulière qui complique davantage la situation. Ces islamistes, entre guillemets, qui se servent de cette religion également pour faire une propagande politique, pour un combat politique, face à des populations qui ne sont pas forcément adeptes de leur religion, de l'islam, qui sont d'autres populations qui ont contracté, par exemple, le christianisme, qui est leur choix tout à fait libre, et que le Vatican se taise face à une telle situation, ne défende pas ses cours religionnaires et n'est pas un bon signe. Avancer, le pape doit monter au créneau, dénoncer cela. La France l'a dit tantôt, prête à accueillir quelques chrétiens qui font l'objet d'exactions en Irak, on l'a vu par le passé. Aujourd'hui, ils ouvrent également les mains. Il ne s'agit pas d'ouvrir les mains, il s'agit d'empêcher tout simplement qu'on tue d'autres personnes au XXIe siècle parce qu'ils ont une religion différente.
Mais et empêcher de quelle manière concrètement ? J'ai l'impression qu'on est tous un peu impuissants, on sait exactement ce qu'il faut faire, mais comment arriver à le mettre en pratique ?
La pratique est facile et compliquée en même temps. Elle passe par le dialogue, par la discussion, elle passe par la dissuasion, elle passe par des règles qu'il va falloir respecter. Elle passe par l'opposition, sortir ses muscles, empêcher militairement, s'il s'agit, ces bandits, de se servir d'une religion pour combattre d'autres. C'est les termes qu'il faut. Il ne faut pas se voiler la face. Ce sont tout simplement des gens qui se servent d'une religion pour avoir un pouvoir et ce qui n'est pas admis. Aucune religion au monde ne l'admet. Même l'islam n'est pas c'est une religion de paix et de tolérance. Nous la pratiquons, d'autres la pratiquent partout sur ce continent-là, sur ces terres-là, et ce n'est pas forcément un combat politique dont certains en font aujourd'hui, les islamistes particulièrement, et donc cela doit cesser. Et la communauté internationale, en tout cas, a eu assez d'armes, assez de persuasion, assez de force pour dire, n'y a que l'ONU, les quatre grandes puissances qui ont aussi des musulmans en leur sein, peuvent également dire stop, la persuasion est possible, la dissuasion est encore possible, le dialogue, et puis la réconciliation des pères de cœur est également indéniable pour arriver à une solution.
Merci Tiambel Gimbayara. On se retrouve dans 3 minutes après le rappel de l'actualité. A tout de suite.
Thank you.